Bonjour ou bonsoir, en ce presque hiver, encore hiver, nous sommes déjà entrés dans toute la France soumise à la pluie, aux nuages et aux intempéries, nous sommes déjà entrés dans la soirée. Et bonsoir et même bonne nuit à ceux qui nous écoutent le jeudi à 23h en rediffusion. Et bonsoir à ceux qui nous écoutent ou bonjour ou bon matin par le biais d'Internet. Alors, grande journée à plusieurs titres. D'abord parce que c'est une grande date. C'est aujourd'hui le mercredi des cendres. Et je dois vous dire que j'ai eu une poussée de colère tout à l'heure dans ma voiture. J'écoutais les informations de 13h sur France Inter. Évidemment, il n'a pas été fait mention du carême. Laïcité oblige. Ou anti-christianisme militant du service public de l'audiovisuel oblige. Par contre, il fut question de la proximité, je crois que c'est après-demain du Ramadan. Il y a même eu un reportage dans une ville de l'Est pour nous expliquer comment on s'apprêtait à célébrer le Ramadan, le jour même de l'entrée en carême pour les chrétiens.
Et hier, aux informations, ils n'ont pas parlé du Ramadan, qu'ils en parlent toujours, pour une raison particulière, à mon avis, c'est que s'ils l'avaient fait, ils étaient obligés de parler du carême aussi, mais et ils ne voulaient
Inter,
pas le faire.
Sur France Inter, à 13h,
ils ont osé
justement parler
de l'un et pas de l'autre.
Et ce soir, sur la deuxième chaîne de télévision, au service public, un film anti-chrétien, un drame, qui évidemment met en scène une partie du clergé, dépeint sous les pires traits, enfin le militantisme du service public de l'audiovisuel contre la civilisation en général et la chrétienté en particulier. Je rappelle que Malraux disait une civilisation, c'est une religion et tout ce qu'il y a autour. Donc pour atteindre la civilisation, il faut atteindre la religion qui a donné naissance à cette civilisation. Et ce travail de destruction est fait systématiquement. Je le dis aussi parce que a lieu depuis 2 mois, une commission d'enquête parlementaire menée par un rapporteur du Tonnerre, qui s'appelle Charles Alloncle, on en a souvent parlé à ce micro, il continue, on va peut-être en parler, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, il continue à faire des révélations. J'ai vu une partie de l'audition lamentable d'un des 18 ou 20 directeurs adjoints, ou directeurs, je ne sais pas comment ils sont, de France Télévisions. Il y a une batterie de directeurs, dont un qui est aussi maire adjoint de la ville de Paris. Comme maire adjoint, son salaire qui fait 202 000 euros par an, comme directeur ou sous-directeur, enfin une des multiples figures de cette armée mexicaine qui s'appelle la télévision française, son salaire annuel dépasse 200 000. Si bien qu'il fait plus de 300 000 euros, dont 100 000 euros, parce qu'on n'a jamais su, c'est ce que dit Charles Alloncle, ce qu'il faisait à la mairie de Paris. Mais ça ne le regarde pas, puisqu'on enquête l'audiovisuel public.
Oui,
regardez, mes chers amis, puisque je commence par ce sujet, regardez, suivez, encouragez Charles Alloncle, regardez les auditions, elles sont toutes plus lamentables les unes que les autres.
Ça me fait penser, je fais une petite aparté. Un jour, j'étais arrivé au Bénin et j'avais voulu rencontrer au ministère des Finances le directeur, un des adjoints du ministre, donc un haut fonctionnaire de très haut rang que j'avais rencontré et qui m'avait parlé de son pays, des développements. Et l'après-midi, j'ai voulu aller voir le patron d'une des principales banques privées américaines ou françaises. Et c'était le même. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez être un haut fonctionnaire du ministère des Finances le matin et un directeur, il me dit, il y a des choses qui sont possibles au Bénin et qui ne sont possibles nulle part ailleurs. Alors, je pense aujourd'hui qu'il y a aussi un autre pays où c'est possible nulle part ailleurs, c'est la France.
La France ou le Bénin. Alors, vous l'avez reconnu, inutile de le présenter, mon grand invité aujourd'hui est aussi un grand ami et un grand complice, François Martin, que nos auditeurs connaissent bien depuis quelques années. Il poursuit une œuvre remarquable qui consiste à décrypter les évolutions, il les décrypte avant tout le monde d'ailleurs, les grandes évolutions du monde. Et François Martin est notamment, je le dis tout de suite, l'auteur de la formule qui domine la période, qui s'appelle « Le basculement du monde ». C'était son premier livre chez Jean-Cyril Godefroy. Le second s'appelait Le temps des fractures. Alors, le premier, c'était 2022, je crois. Il était en partie, en grande partie consacré, non pas simplement au conflit ukrainien, mais au parti, si l'on peut dire, que tirait la Russie pour se reconvertir et trouver d'autres alliés et lancer finalement la puissance des BRICS, allié Inde, allié traditionnel de la Russie, mais aussi Chine, ce qui était plus étonnant, Iran. Et immédiatement, François Martin a sauté sur ces événements qui se passaient sous nos yeux et les a compris, décryptés et nommés. Le basculement du monde, Le temps des fractures, on va en parler, est un livre de 2023 et vient de paraître un troisième livre. Ça fait un peu un triptyque. La France dans le chaos du monde, car François Martin s'intéresse évidemment, nous nous sommes rencontrés dans le cadre du Parti chrétien-démocrate, pourquoi le cacher, François Martin est non seulement chrétien, mais très français. Il se soucie de ce que peut être la France.
Ce que doit être la
France. Ce que doit être ou ce que pourrait être la France si elle était gouvernée dans cette nouvelle distribution des rôles à l'échelle planétaire. Et la grande idée de François Martin, à laquelle j'adhère entièrement, qui est une idée gaulliste, c'est qu'on ne peut pas parler de la France sans parler de son rôle, enfin de sa situation dans le monde, de même qu'on ne peut pas faire de la géopolitique sans s'interroger un jour, c'est ce que fait ce troisième livre, La France dans le chaos du monde, sur le rôle de la France.
Bien voilà. Sûr, les deux choses sont un...
Voilà, rapport au monde et le monde par rapport à la France.
Les deux choses sont absolument liées, et d'ailleurs je trouve que les hommes politiques commencent à y venir, mais je trouve que pendant longtemps, ils ont été, soit par manque de connaissances, soit par manque d'ambition, trop centrés sur les problématiques spécifiques des Français, et ce faisant, ils ont fait d'eux-mêmes des nains au lieu d'être des géants. Ce que De Gaulle avait compris, oui. Si tu veux être un géant, et tu dois l'être si tu aspires aux plus hautes fonctions, tu dois parler du monde. Voilà,
tu peux et pas faire autrement. Et situer ta politique par rapport aux évolutions du monde.
Voilà, c'est ça. Oui. Et je pense qu'ils l'ont compris
ce
maintenant.
Ce qu'a fait De Gaulle parfaitement,
de plus en plus,
dès juin 40, c'était une compréhension anticipée des rapports de force qui lui fait dire que la France était ce jour-là battue, mais qu'un jour, l'évolution du monde lui redonnerait son rôle. Bien entendu, est avec moi, enfin, nous sommes ensemble, Pierre Lours. Bonjour mon cher Pierre.
Bonsoir Paul-Marie.
Merci d'être rentré à bride abattue de votre Cantal.
Écoutez, par ce mois de novembre pluvieux et froid, oui, je trouve que c'est plus novembre que l'hiver. C'est un automne pluvieux.
Mais non, croyez au printemps, puisque nous sommes aujourd'hui en ouverture de la sainte période du carême, une période que j'aime beaucoup, je dois dire. Et d'ailleurs, on y consacrera la prochaine émission au jeûne, de manière générale, au carême et au sens du jeûne. Ce sera notre prochaine émission mercredi prochain. Mais écoutez, puisque nous commençons cette émission donc de février, d'ouverture du carême, de mercredi décembre, il y a beaucoup de messes, il y en a eu ce matin, il y en a ce soir, allez-y. Chers auditeurs, parce que c'est un moment important, surtout dans la période dans laquelle nous vivons, non seulement parce qu'elle est troublée, mais parce que nous crevons tous d'un surcroît de consommation désordonnée.
Bien sûr.
Et que le carême est le moment où l'Église, la Sainte Mère, notre Mère, l'Église de Rome, prouve au monde qu'elle est un signe de distinction et peut-être d'opposition à la surconsommation, à une conception hyper matérialiste du monde, eh bien nous nous extrayons de ce matérialisme le temps d'attendre la résurrection du Christ et toutes les résurrections autour de nous, y compris peut-être celle de la France, par l'abstinence, en tous les cas, une consommation modérée, disciplinée et inscrite dans notre foi, qui est avant tout, même si nous avons perdu tout espoir, comme je l'ai dit l'autre jour, je crois qu'il n'a pas très bien compris à Michel Onfray lors d'un débat arbitré par Éric Morillo, peut-être que certains l'ont vu, plusieurs m'en ont écrit. J'ouvre une parenthèse, il n'y a pas d'intervention d'auditeur dans cette émission parce qu'elle est beaucoup trop courte. Mais merci à ceux qui m'écrivent et qui me parlent justement de ce débat avec Éric Morillo et Michel Onfray. Je lui disais, il n'avait pas l'air de comprendre que je suis dans le désespoir, je ne suis plus du tout dans l'espoir. Par contre, je vis dans l'espérance. Et il y a une grande différence, évidemment. Ce sont deux plans différents entre l'espoir et l'espérance, nous entrons dans l'espérance de la résurrection après la période de jeûne, d'abstinence et de prière qui est plus que jamais d'actualité. Avant d'en venir à ce livre, François Martin, La France dans le chaos du monde, vous dites souvent, je crois à deux reprises, que la France est en face d'un chaos mondial, mais qu'elle est elle-même livrée à son chaos intérieur. Et comment, quelle résonance cette notation qui vient à deux reprises dans votre livre, après, non pas l'assassinat, puisque apparemment ce n'est pas prémédité, mais en tous les cas le meurtre, ça s'est avéré, d'un jeune étudiant de 23 ans, le fameux Quentin qui occupe tous nos esprits depuis que nous avons appris sa mort et les conditions dans lesquelles il a été battu à mort.
Bien sûr.
Une sauvagerie qu'on ne voit nulle part ailleurs et que la France n'avait pas connue depuis longtemps. On ne meurt pas pour des idées politiques.
Oui, oui. Je ne suis pas sûr à ce titre que dans l'esprit de ceux qui l'ont frappé, qui l'ont tué, la séparation soit très nette entre meurtre et assassinat. Si je peux dire les choses comme ça.
Oui. Parce alors, l'assassinat, c'est prémédité. Mais il y a une préméditation, puisqu'ils étaient en embuscade.
Ben bien sûr. Non seulement ça, mais en plus, je sais que c'est encore plus que ça, parce que c'est un système politique, en fait. Ça fait très longtemps que je pense que leur idée est de créer une espèce de sixième république de type trotskiste, avec soi-disant le pouvoir au peuple, et en fait des comités de quartier qui verrouillent tout, comme pendant la Révolution française, et que pour ceci, ils doivent absolument créer ou donner l'impression que la France est en guerre civile. Donc il faut provoquer, et ce meurtre en est un, et dans ce sens c'est un assassinat politique, pour créer une situation qui soit si possible une situation de non-retour, où tout le monde se batte, et à ce moment-là, ils diront, nous, on vient avec la solution. Ce sont des révolutionnaires. Ils veulent la révolution à la cubaine, c'est ça qu'ils cherchent.
Mais créer une situation de non-retour par la violence, la stigmatisation de la violence dans la vie civile, notamment aux universités, mais ailleurs, ça me rappelle la manière dont Hitler est arrivé au pouvoir. Les bandes SS et SA n'ont rien fait d'autre dans les années 20, jusqu'à ce que ça devienne insupportable et que les Allemands se jettent dans les bras de son parti. Ça me fait aussi penser à l'agitation léniniste avant la Révolution d'octobre.
Bien sûr,
aussi penser à l'agitation menée par un autre socialiste. Parce que le fascisme vient toujours de la gauche. Hein. Fascisme est un mouvement de gauche, historiquement. Mussolini était un leader de la gauche italienne.
Bien sûr.
Qui a commencé par agiter avec ses faisceaux, ses fascis, qui a agité la société italienne, comme le fait aujourd'hui Mélenchon. Parce que ce bonhomme est dans la tradition des agitateurs fascistes italiens et communistes soviétiques qui mènent à une dictature et à un totalitarisme qui nous pend au nez, on y reviendra. Est-ce que mon cher Pierre Lourdes, est-ce que cette manière de voir les choses vous choque ou vous y adhérez ?
Non, j'y adhère et j'y mettrai aussi un auteur qui a écrit un livre qui a eu une certaine renommée juste avant 2017, qui s'appelait Révolution, qui était Macron.
Oui.
Parce que je pense que Mélenchon, certes, il va dans cette voie que vous avez tous les deux bien indiquée, mais je pense que Macron, lui aussi, est quelqu'un qui manie la violence et qui manie les violences.
Bien sûr.
Et on a vu...
Les peurs relatives.
Et on a vu, par exemple, toutes ces violences, on les voit parce qu'on laisse le crime proférés sur les voies publiques, on laisse la grande criminalité, on sait bien que toutes les statistiques sont en hausse, on voit bien que dans les manifs, il y a de la violence et c'est créé, cette violence, par les Black Blocs, etc. On voit bien que dans le traitement des maladies comme le Covid, il y a eu une violence extrême. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit « nous sommes en guerre ».
Oui, nous sommes en guerre.
Ça veut dire,
d'ailleurs, mais c'est
ça
comme Mélenchon, il faut créer de la violence.
Dans ce sens-là, Mélenchon est un ervi du pouvoir, je le pense depuis le premier jour, de ce pouvoir-là. C'est un ervi du pouvoir, il est au service du pouvoir.
Oui, bien sûr.
Il favorise, en tous les cas, une marche vers la pente, je le dis depuis 50 ans, la pente qui est celle du matérialisme consumériste, et servi par une foi inébranlable dans la technique et le progrès technique, et le progressisme à base de technique, qui s'appelle dans mon esprit, au nouveau conservateur, c'est une expression que nous reprenons souvent, le TTP, le terrorisme technoprogressiste.
Oui, c'est ça.
Le TTP, c'est un troisième totalitarisme qui s'installe après le totalitarisme nazi et le totalitarisme communiste sur les mêmes bases d'un matérialisme et d'une croyance en une espèce de révolution de l'humanité qui va devenir un Urmensch, c'est-à-dire une humanité supérieure, un autre homme, comme les transhumanistes préparent sur les côtes pacifiques des États-Unis.
Et si vous réécoutez à ce titre l'interview tout à fait extraordinaire de Solzhenitsyn par, comment s'appelait-il, notre... Dans l'émission sur les livres,
Pivot,
à un moment donné, il le dit, le grand risque de l'humanité aujourd'hui, c'est la transformation de l'homme sujet et maître du progrès en un appendice
de
la machine. Voilà. Il dit, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'homme et aujourd'hui, je vois ça comme l'immense danger du XXe siècle et des siècles suivants. Il le dit exactement avec ces mots-là.
Avec aussi la perte du courage. C'est ce qu'il a dénoncé dans son discours d'Harvard.
Voilà, que je cite.
Alors là,
ce n'est
pas François Martin qui vous parlait de ce livre, mon cher Pierre.
Je fais un chapitre
dans
là-dessus.
Le temps des fractures, François Martin commente très longuement cette conférence magnifique qui s'appelle « Le déclin du courage ».
Un discours fait aux étudiants de Harvard.
Qui est vraiment un très très beau texte.
Oui, absolument. Il annonce tout ce qui se passe aujourd'hui.
Y compris cette prise en main de la machine, revenant sur des grands auteurs dont nous avons parlé dans cette émission, Jacques Ellul sur le système technicien, évidemment Gunther Anders, dont le livre... magistral des années 55 qui s'appelle « L'homme obsolète » et trace des perspectives étourdissantes. Parce que l'homme devient obsolète quand il n'est plus qu'un appendice, comme le disait François, de la machine. Mais il y a cette phrase d'un autre Allemand, Ernst von Salomon, que je répète souvent tellement elle est effrayante, parce qu'elle dit l'essentiel de ce qui se passe, c'est-à-dire une déréliction, une perte du sens de la nature et de l'au-delà. Loi de la nature, la phrase d'Ernst von Salomon est « Le jour où l'homme s'est débarrassé de Dieu, il ne devinait pas qu'un jour la machine se débarrasserait de l'homme. »
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que la verticalité que donne la foi dans un au-delà, outre des racines d'ailleurs, est perdue par l'homme en sorte qu'il vit à l'horizontale, qu'il a perdu sa verticalité et qu'il est soumis à toutes les machines, il est à quatre pattes, il est soumis à toutes les machines qu'il a créées.
Oui, voilà.
Mais quand il n'y a plus de foi, il n'y a plus de conscience.
Il n'y a plus d'intelligence du monde.
Une des traductions de ceci, c'est qu'il n'y a pas non plus d'anthropologie. Parce que j'en avais l'occasion de discuter avec un des très bons amis qui est un professeur de philosophie qui s'appelle Jean-Marie Meyer, qui me disait, mais on n'a pas un problème de foi dans notre société d'aujourd'hui, on a un immense problème d'anthropologie. Il avait raison. Où commence l'homme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Qu'est-ce que c'est que la vie? Quand est-ce qu'elle commence? Qu'est-ce qu'elle est finie? Est-ce que l'homme est un animal? Est-ce que l'animal est un homme? Si on n'a pas de réponse... j'avais entendu un Américain qui disait, quand on ne sait déjà pas ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme, on a un vrai problème, il disait ça.
Et regardez, par exemple, Macron n'a eu de cesse que justement de brouiller tout ce que vous venez de dire.
Brouiller
la famille, brouiller le mariage, brouiller les naissances, brouiller la mort, brouiller la sexualité, brouiller l'église, brouiller l'université, etc. Il brouille tout.
Même l'animal, vous ne savez pas si aujourd'hui, vous avez nombre de reportages où on vous décrit les animaux, les comportements animaux comme en fait des comportements humains. Il aime,
vous savez qu'on ouvre
déteste,
en Chine des restaurants réservés aux animaux, à tel ou tel type d'animaux. C'est-à-dire qu'on conduit son chien au restaurant et que quelquefois dans les magasins, dans les appartements privés de riches oligarques chinois, et je crois que ça vient aux États-Unis aussi, on crée des maisons avec des appareils... caméras et des écrans situés assez bas, à la hauteur de l'animal, parce que quand vous partez en vacances ou tout simplement pour la journée, vous voulez rester en communication avec votre animal, donc vous êtes relié à votre animal domestique qui est censé aller regarder ce que vous lui dites par écran. C'est aussi ce que dit François Martin,
voilà.
Une mutation de l'homme. Et je suis voilà. Content d'avoir cette conversation. Alors, ce n'est pas tout à fait dans ce livre, mais on y vient. Un autre aspect de François Martin, très bien connu comme un spécialiste de la géopolitique, arrivé au moment où il fallait, avec une énorme expérience commerciale, car c'est François, ça. Vous avez pendant 40 ans baroudé dans le domaine de l'alimentaire
oui.
À travers le monde entier, pas tout à fait le monde entier, oui. Mais beaucoup l'Afrique, beaucoup l'Amérique latine.
L'Amérique latine, tout le Moyen-Orient aussi,
et
dont j'ai fait
Orient.
Tous les pays, toute l'Europe centrale, dont j'ai fait tous les pays, parce qu'une époque de ma vie, j'étais dans les produits laitiers que nous achetions en Pologne, République tchèque, Hongrie, Pays-Baltes. Donc j'ai passé 5 ans à faire toutes les laiteries polonaise, pratiquement, je les connais, donc je connaissais non seulement les villes, mais aussi les campagnes, et puis également l'Asie du Sud-Est, où j'ai beaucoup été, à l'époque où j'étais dans le riz, et j'allais acheter du riz.
Alors, pour former le regard géopolitique et la conscience des mouvements géopolitiques, ça vaut largement l'ENA. Rassurez-vous,
oui.
C'est une bien meilleure
oui,
école
si vous voulez,
qui vous a donné ce regard.
Quand on est dans un sujet, on parle de Yémen, je dis, j'ai été des dizaines de fois au Yémen, je sais comment pense un yéménite.
C'est pas simplement le regard géopolitique qui vous caractérise, c'est que vous êtes aussi un grand chrétien.
Oui,
c'est aussi pour ça que je commence par le sujet.
Oui, oui.
Parce que nous avons fait une conversation, même deux, je crois, pour TVL,
oui,
François
oui,
Martin.
Tout à fait.
Mais je n'ai peut-être pas mis assez l'accent sur une dimension de votre personnage, qui est une dimension religieuse, chrétienne,
oui.
Très chrétienne.
Oui. C'est indispensable.
Oui.
Et c'est encore plus indispensable aujourd'hui par les temps qui courent parce que
on a
je
coup
dirais
d'œil.
Qu'il y a ça et puis il y a une appétence naturelle à la confrontation. Et je pense que ça vient de très profond de notre animalité où quand les choses ne vont pas bien, on cherche le duel et on cherche que les deux forts ou les forts se cassent la figure pour qu'il en reste un et qu'il ait donc d'une part, la hiérarchie, puisque Jean-Paul II disait que l'autorité masculine était d'ordre hiérarchique et l'autorité féminine était d'ordre charismatique, c'est ce qu'il disait. D'ordre hiérarchique, il faut donc qu'il y ait un chef. Et il a la hiérarchie, donc l'ordre d'une part, et le harem des femelles à sa disposition. C'est ça qui nous vient de l'animal, en fait. Donc on cherche ça. Or, il y a d'autres systèmes que les systèmes purement de confrontation d'efforts pour qu'il reste un chef, qui est le principe du duel, je pense qu'il est extrêmement ancré dans notre psyché.
Oui.
C'est le système westphalien où on recherche l'équilibre, qui est à mon avis beaucoup plus d'ordre chrétien, où on peut s'entendre par des équilibres sans qu'il y en ait un qui soit cassé la figure à tout le monde.
Le maître mot de la diplomatie ou des conceptions internationales de nos rois. C'était
voilà.
le nécessaire équilibre.
Voilà.
Qui consistait justement
très imprégné de christianisme, évidemment.
À dissoudre l'adversaire, mais à faire en sorte que les forces s'équilibrent avec suffisamment d'égalité pour que nul ne nuise aux autres. En réalité.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que parmi les gens qui analysent les situations ou qui essayent de les comprendre, et certains voudraient bien qu'ils se cassent la figure pour savoir qui c'est le nouveau chef, en fait. Quelque part, ils ont une appétence pour la guerre, en fait. Non pas parce qu'ils ont envie de la faire, mais parce qu'ils ont envie, ils pensent que par la guerre, se résoudra le problème d'insécurité qui est celui d'aujourd'hui, pour la raison que je viens d'expliquer. Et je ne pense pas que ça soit forcément la bonne approche des choses, en fait, c'est mon avis.
Mais moi, je trouve que vous êtes optimiste en disant ça.
François est un grand optimiste. C'est ce que je lui reproche quelquefois.
Je pense qu'ils ne veulent pas un nouvel ordre, je pense qu'ils ne veulent plus d'ordre. Je pense qu'ils veulent le chaos total.
Non, le chaos pour créer un ordre nouveau.
Non, je ne crois pas.
Je pense pas que tous les analystes cherchent le chaos.
Non, ils ne veulent pas.
Certains dirigeants, oui.
Mais je parle des dirigeants.
Ah oui.
Regardez l'anglais, regardez l'allemand, regardez le français.
Oui.
Ces gens veulent le chaos.
Oui,
parce que
les Européens
eux-mêmes sont fruits du chaos.
Parce qu'ils sont eux-mêmes
vous comprenez
envahis par le chaos. Alors, occasion d'ailleurs d'attirer votre attention sur un autre, parce que l'ordre du jour... L'actualité du jour est effrayante. Enfin, on vit sans cesse dans l'actualité. Tout nous sollicite.
Oui.
Il y a l'affaire de Quentin dont nous avons parlé à l'instant. Donc, il ne faut pas cesser de parler, d'ailleurs, tant elle est grave, et de dénoncer L'émergence d'un nouveau fascisme. Je ne trouve pas d'autre mot, je ne crois pas qu'il soit bon, mais j'ouvre une parenthèse. J'entendais Marion Maréchal hier donner un entretien à je ne sais trop quelle chaîne de télévision. Elle parlait sans cesse des antifascistes, des antifascistes.
Mais non, il ne faut pas parler
de
ça.
Ils ne sont pas antifascistes, ils sont fascistes.
Mais évidemment.
Je répète la phrase de Pasolini, le fascisme a un grand avenir à condition de s'appeler antifasciste. Ouais, mais... Et on a affaire à la résurgence d'un fascisme sous couvert d'antifascisme qui est évidemment la porte ouverte à toutes les violences parce qu'ils s'imaginent ou ils disent, je ne sais pas s'ils peuvent penser ce qu'ils disent, qu'ils luttent contre le fascisme alors qu'ils l'imposent, qu'ils l'instaurent et qu'ils le rendent inévitable dans leur esprit pour pouvoir prendre le pouvoir comme l'ont fait tous les fascismes. Il faut foutre le bordel dans la rue pour que les gens se précipitent dans vos bras voilà. afin de retrouver un ordre.
Et quelque part, là où ils se sont trompés, je pense, c'est qu'ils ont tué un authentique chrétien. Donc le message de retour qui
Quentin.
Est passé par rapport à ça, oui, ils ont tué Quentin.
Adhérent à l'Action française, ce qu'on ne dit pas, c'est un royaliste
oui.
aussi.
Mais ils ont tué un pacifique, pas un pacifiste, mais un pacifique. Donc, si, comme je le pense, leur stratégie politique consiste à amener le chaos et la guerre civile, je pense que ce n'est pas la réaction qu'il y a eu aujourd'hui de la part générale des Français. Et il y a un mouvement qui est en train de se généraliser, même à gauche, de repousser politiquement Mélenchon et ses sbires et tout ça. Et si c'est ça... c'est une victoire pour nous, d'une certaine façon. Alors,
mais
ça réglera
rien
à terme.
Années, les partis politiques allemands, dans les années 20, ont repoussé les nazis et les bandes nazies.
Oui.
Ils sont tombés dedans, finalement, même.
Oui, oui, oui.
Et pareil en Italie.
Oui. Hein, alors, d'un autre côté, Macron qui joue là-dessus, évidemment, puisque dès les Gilets jaunes, on l'a vu venir, les Gilets jaunes, c'était pour faire passer les Black Blocs derrière, pour taper, pour terroriser les bourgeoisies. Il a toujours dirigé comme ça, et c'est ça son système. Il en a que pour un an. Hein, Il n'en a que pour un an, voilà.
14 mois encore, mon Dieu.
Voilà.
Oui, à peu près.
Alors
j'en viens à l'autre sujet d'actualité dont je disais qu'il nous sollicite beaucoup, ce qui nous permet de nous rapprocher de votre livre, cher François Martin.
Oui.
C'est l'affaire Epstein. Epstein.
Non, on va dire Epstein.
Moi, j'ai dit Epstein, hein.
Oui.
À la française.
Il faut dire Epstein parce que Einstein ne s'appelait pas Einstein.
Oui. Alors LCI dérisoirement posait la question l'autre jour. Epstein était-il un agent russe ? Enfin, c'était complètement dingue comme question. Parce qu'il est évident, d'abord, il a double nationalité. Il avait la double nationalité, mais comme beaucoup d'autres, et comme Netanyahou, israélienne et états-unienne. Et d'autre part, on ne peut pas imaginer, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est un agent du Mossad, parce qu'un agent, de service secret ne se conduit pas comme il se conduit, c'est-à-dire en disant tout sur Internet. C'est pas possible. À moins que ce soit une ruse pour tout déballer et mouiller tout le monde.
Je pense qu'on l'a placé à cet endroit-là, on l'a utilisé, alors agent,
quand
il y a 50 000 sortes d'agents. Je dis, si, en tant qu'agent, il était extraordinaire, parce qu'il a généralisé le système du compromat à l'échelle universelle. Et après, je dirais, ceux qui tenaient les ficelles de cette affaire pouvaient faire chanter absolument tout le monde.
À l'échelle universelle, à l'échelle de l'Occident. Et encore, parce que il n'y a pas de compromission en Afrique, en Asie, il n'y en a pas beaucoup en Italie,
pas beaucoup.
Je crois,
en Afrique,
pas beaucoup
en
Espagne. C'est principalement la Norvège, la Suède, la France et
la France.
Parce qu'il vivait en France pendant 6 mois, cet Epstein.
N'en parle pas, mais il était à Paris tous les mois.
Non, je crois qu'il vivait 5 ou 6 mois par an à Paris.
Oui.
Il y venait très régulièrement.
Oui, c'est ça,
il allait voir ses potes, genre Jacques
Lang. Et il ramenait les filles qui ne pouvaient pas rentrer directement aux États-Unis, il venait chercher à Paris. Donc, y a là-dedans un entrelacs de relations entre la grande finance. Parce que derrière ça, il y a évidemment ce qu'on ne doit pas appeler l'économie casino, mais l'économie de compromission et de trafic, en fait, c'est ça. Avec ces sociétés dans les îles Vierges, alors qu'ils travaillaient pour les principaux grands banquiers de la Terre. Donc, on se rend compte que toute cette finance était en même temps devenue totalement criminelle.
C'est plus qui posait la question, comment se fait-il qu'un professeur de mathématiques est devenu si puissant? Et surtout, je crois que c'était Pierre Servant, un géopoliticien de plateau, mais qui posait naïvement cette question, comment un homme seul peut, derrière sa machine, régenter tant de choses.
Mais ça il n'était pas seul du tout.
Ça va, voilà. Mais il n'avait pas
concevoir qu'il était seul. Ce n'est pas lui qui a monté les micros dans toutes ces sociétés.
Mais évidemment.
C'est les professionnels.
Mais évidemment.
Et ça, c'est la
les
CIA et le Mossad.
Et les caméras.
Ben, bien sûr.
C'est la CIA et le Mossad.
Ben, bien sûr. Bien voilà. sûr, ben oui.
À propos du 11 septembre, d'ailleurs, la connivence CIA-Mossad est en train d'apparaître, d'ailleurs. Dans les
bien, sûr, bien sûr,
Epstein.
Bien sûr.
En fait, c'était un honorable correspondant, comme on dit, sauf que c'est un déshonorable correspondant.
Un déshonorant.
Oui, oui, c'est ça. On voit aussi l'ambition absolue de ce gouvernement de la droite sioniste israélienne qui a fondé ce projet, parce que le projet est de cette nature au départ, pour essayer de corrompre
L'Occident et
la
terre
à sa
main.
Entière, si
non, l'Occident.
Oui, quand je dis la terre entière, je dis la partie occidentale, celle sur laquelle.
Mais ça
elle
n'est
a
plus la terre entière, hein. Justement. Vous l'avez montré vous-même.
Oui, 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 oui.
Ça n'est plus que la périphérie
oui,
du monde.
Bah oui, c'est ça.
Et
voilà.
Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que le nom le plus nommé est celui d'Ehud Barak, un ancien Premier ministre
bien
israélien,
bien sûr.
Qui
c'est
a
pour
ensuite
ça que
été.
Trump l'a fait.
Service. Alors justement, qui a été aussi chef des services israéliens, il y en a plusieurs, notamment le Mossad.
Il a consommé les plats qu'il a servis.
Il était invraisemblable qu'un homme seul pût régler tant de choses.
Mais
on voit par
sûr.
Exemple Jacques Lang demander à Jeffrey Epstein, par mail, par courriel, parlons français, s'il peut au dernier moment lui prêter son avion qui doit être au Bourget, parce qu'il veut absolument aller à Avignon. Il n'a pas eu de place ou il n'en a pas cherché dans les lignes ou dans les trains, parce que M. Lang est en apesanteur, il ne prend pas le train.
Oui.
Et il demande à Epstein de lui prêter son avion un week-end pour pouvoir faire l'aller-retour.
Oui.
Mais cet homme derrière, il ne peut pas régler tant de choses.
Mais
il y a toute une équipe
il
derrière,
avait un peu la
évidemment.
Position de
tout ses... seul, il ne peut pas répondre à tant de sollicitations.
Il avait un peu la position de ces personnes dans les grands hôtels, comment s'appelle-t-il
Les clés d'or.
Non, oui, c'est ça, comment
qui
on appelle
à la réception.
Ça. Tu lui demandes... tu lui demandes d'or. Comment ça s'appelle
ah oui.
un canard laqué à 2h du matin, il
oui.
te sert,
oui.
puis il donne une bouteille de Dom Pérignon 1950 et quel qui te la sert. Tu lui demandes une fille, il te la sert, tu dis non, je veux pas une brune, je veux une blonde. Il dit excusez-moi, il te ramène une blonde une demi-heure après. Enfin, il te donne tout, tu lui demandes des places pour un festival qui est totalement plein, où il n'y a aucune place, il te les trouve. Enfin, comment on appelle ça, les concierges.
C'est les concierges des grands hôtels, ils font
le
tout.
Le concierge de l'Occident, voilà, si on peut dire ça.
C'est une belle formule.
Voilà, c'est ça.
Vous alliez parler, mon cher François Martin, de Trump.
Oui.
Là, je dois faire amende honorable, parce que
oui.
cet été...
oui.
Alors, je n'ai pas la même mansuétude que vous sur Trump, on verra d'ailleurs.
Peut-être. On verra.
J'entre tout à fait dans vos vues, d'une certaine façon, et
oui.
pas dans d'autres, parce que Trump ne supprime pas l'aspect férocement impérial des États-Unis. Je crois qu'il
oui,
perdurera,
oui.
parce que c'est l'essence même. L'empire perdure. Mais enfin, il peut la modifier. Et en tous les cas... vous me disiez, il va sortir les papiers. Et puis, vous vous souvenez que
ben
cet
oui.
été, il y a eu une hésitation.
Oui.
Et je me souviens vous avoir dit au téléphone, mon cher François, vous, enfin, on se tutoie dans le... Mais je ne veux pas passer au tutoiement à ce micro, par respect pour nos auditeurs. J'ai dit en crânant un peu vite, François, vous êtes pris de nouveau d'illusions.
Oui.
Trump cache tout et
oui.
il cachera tout parce qu'il est mouillé.
Non,
vous m'avez
non.
répondu, ça sortira tôt ou tard.
Oui, oui,
il n'a pas fallu 3 mois sans que vous ayez
oui.
raison. Enfin,
oui, oui, c'est
3 ou 4 mois.
Et l'autre chose qui me plaît chez lui, c'est que dans le même esprit, il dézingue l'Europe de Bruxelles et l'Europe mondialiste cette Europe mondialiste. Et dépravé.
Libre-échangiste.
Libre-échangiste dans tous les sens. Il tire dessus à boulet rouge, enfin.
Ouais.
Rubio tire dessus, Vance tire dessus, lui aussi, enfin. Ils veulent détruire ce système bruxellois qu'ils abordent.
Alors,
voilà.
Je vous rends un second hommage, parce que dans ce livre très foisonnant, on n'a plus qu'une demi-heure pour en parler, c'est effrayant, mais enfin, on en reparlera, là, j'en suis sûr. Il y a une notation que je n'avais même pas tout à fait saisie. Vous dites que par son jeu avec les droits de douane, il est en train de détruire le libre-échange, qui est
oui.
un fameux fondement de cette démence
sûr.
Occidentale,
bien
le
sûr.
Libre-échange intégral. Oui,
parce qu'il a compris
et vous dites
que c'est nous
qui l'avons détruit. Vous allez même plus loin, page 55, vous écrivez « On peut dire que le libre-échange est mort
oui, ».
Là,
pense.
C'est un peu de l'optimisme quand même, non ?
Oui, je pense. Parce qu'en fait... Vous savez, moi, j'ai fait du commerce pendant 40 ans.
Et oui.
Mais le libre-échange, ça veut dire moi, je vends chez toi parce que je suis grand et fort, et toi, tu ne vends pas chez moi parce que tu es petit et faible. C'est ça, le libre-échange. Ouais. Derrière le mot de liberté, il y a un bon vieux système bien dégueulasse en disant moi, je t'écrabouille, mais toi, tu ne me touches pas.
Le mot liberté,
c'est
veut
ça,
dire mille
fait,
choses.
Qu'il y a derrière.
C'est d'ailleurs, les Américains ont fait leur révolution, non pas pour la liberté, mais pour la liberté du commerce.
C'est
tout différent.
Non, oui. Pour la liberté du commerce, quand eux avaient. Moi, j'ai été en Afrique, dans plein de pays. Il n'y a pas un pays pauvre et ne maîtrisant pas son système politique ni ses moyens économiques qui est pour le libre-échange. Ils veulent tous la protection.
La
celui
monnaie...
qui veut le libre-échange, c'est celui qui est fort.
La monnaie disait, entre le pauvre et le riche, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime.
Voilà, c'est ça. C'est...
Ce mot liberté est à prendre avec beaucoup de précautions.
C'est l'accordaire.
Hein. La monnaie.
Ah bon, je crois que
mais il a peut-être repris chez Lacordaire aussi.
Oui, c'est ça. C'est
bien
ça.
Possible.
C'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Voilà, je cite très souvent cette phrase qui est très importante.
Alors le libre-échange est mort, François Martin.
Alors je pense, d'abord, il faut bien voir comment est née la chose. Ça fait longtemps que, parce que moi j'y allais dans les années 80-90 en Asie, et je voyais cette espèce d'appétence absolue des puissances économiques occidentales à faire fabriquer en Asie pour multiplier leurs résultats par 100 ou par 1000. Parce que ce qu'ils faisaient fabriquer
leur pays,
à 10
oui.
chez nous et qu'ils vendaient à 50,
on a bien
ils
compris.
Pouvaient le fabriquer à 1 en le vendant toujours à 50. Donc, c'est eux qui ont ouvert les portes. Et à ce moment-là, comme les Chinois sont malins, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'achetais des produits en Chine pour les vendre en Afrique, ils avaient une usine qui était l'usine officielle qu'ils avaient cofinancée avec le producteur européen. Et il y avait la deuxième usine qui était juste derrière, qui était financée par eux, 100%, où ils vendaient leurs propres produits à leur marque, qui était le même que le produit occidental dont ils avaient volé les secrets, la moitié moins cher. Donc, on a volontairement, par rapacité occidentale, ouvert la porte à l'hégémonie future
je suis pas
économique
sûr.
De la
Vous
Chine.
Vous êtes très optimiste de tempérament, François-Marc.
Voilà.
C'est votre côté très chrétien. Contra spem in spe. Toujours dans l'espérance. Et vous allez un peu vite en besogne, parce que je ne crois pas que le libre-échange soit complètement mort. En tous les cas, il en a pris un coup avec ses droits de douane avec
voilà,
lesquels joue
Ce que
joue
je veux dire, c'est que le principe
Trump.
Du libre-échange, qui est le fait
zéro
on
droit
vend,
de douane, oui.
on triche en disant, écoutez, on fait la liberté, alors que le but, c'est que ça soit les Chinois d'un côté et les grandes puissances économiques occidentales, une des plus grosses usines de voitures au monde, c'est l'usine Tesla, et elle est en Chine.
Oui.
Elle n'est pas en Occident, est en Chine.
C'est bien ce que je dis,
donc,
en réalité.
Trump a cassé ça.
Ce qui foutra en l'air le système, François Martin, c'est une autre mesure, c'est l'interdiction de la libre circulation des capitaux.
Mais bien sûr.
C'est ça. C'est ça,
bien sûr, bien sûr.
Et c'est ça qui a été imposé par l'Union européenne et qui a été imposé par les États-Unis à l'Union européenne. Et c'est ça, en 86 d'ailleurs, c'est à quelques jours près, c'est pour ça que je le mentionne.
C'est Reagan, oui.
C'est février 86, c'est l'acte unique européen, c'est le principe de libre circulation des capitaux qui, je crois, a fait que tout le monde peut investir ailleurs, là où ça rapporte le plus, alors qu'auparavant, les capitalistes... Quand il y avait un régime de contrôle d'échange, les capitalistes, les détenteurs de capitaux, doit-on dire, devaient expliquer pourquoi ils voulaient exporter leurs capitaux et très souvent le refusaient. Ils étaient obligés de réinvestir dans la nation. Et ça changeait tout quant à justement l'évolution des sociétés.
Mais c'est pour ça que, si vous vous souvenez, nous avons fait une émission passionnante avec un grand connaisseur de la question financière qui est
Jacques
notre ami
Cheminade.
Jacques Cheminade, et que donc je vous ai lu en introduction ce texte de Nathaniel Rothschild où il dit Xi et Poutine, c'est Hitler. Il faut les détruire absolument parce qu'ils nous empêcheront de fixer les règles de la finance internationale.
Bien sûr.
Donc il y a une guerre entre la finance qu'on appelle de marché d'une part, et la finance maîtrisée
Le texte du rejeton Rothschild est absolument renversé.
Voilà. Là, entre
on l'a publié dans le Nouveau Conservateur, cette lettre.
Et la finance maîtrisée par les États pour le compte des peuples. Donc, il y a deux conceptions de la finance qui sont totalement antinomiques. Et ce que je veux dire à partir de cette phrase que à propos de Trump, c'est que lui veut imposer la deuxième vision, celle-là, contre la vision universaliste qui, en fait, n'est pas universaliste, qui est simplement au service des plus puissants.
On va un peu parcourir assez vite votre livre. Auparavant, j'aimerais que l'on écoute une musique que vous avez choisie, François Martin, et qui vous dépeint assez, parce que vous aimez le Sud, il faut dire, vous aimez l'Espagne, vous aimez l'Italie. Vous souhaitiez que nous écoutassions un morceau de Caruso, mais malgré l'excellence de notre cher réalisateur Benoît, nous ne l'avons pas trouvé. En revanche, Benoît nous a proposé encore mieux un hommage, à Caruso. Magnifique.
Un personnage que j'aime beaucoup, un petit Italien, fils d'une famille de sept Napolitains pauvres, qui a commencé à chanter à l'âge de 5-6 ans dans les chorales et qui ne savait pas la musique et qui chantait d'oreille. Et quand on l'a remarqué, on lui a fait chanter Rigoletto et il chantait ça d'oreille.
Alors, Pavarotti lui a rendu hommage et nous allons l'entendre après un court Bobino.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
On n'a pas envie d'arrêter, je suis désolé, je fais un signe que je n'ose pas faire à notre cher Benoît, parce qu'on a envie de continuer, mais nous n'avons pas le temps.
J'ai triché un peu par rapport à l'obligation morale de choisir des auteurs français, parce que comment s'appelait-il, il disait que les Italiens, c'était des Français de bonne humeur.
C'est un autre aspect de votre personnage. Vous êtes polyglotte, François Martin. Vous parlez 5 ou 6 langues, évidemment, commerce oblige. Et notamment, vous avez une grande affection pour le monde latin, l'Italie, bien sûr.
Tout à fait.
Mais le monde.
L'italien, l'espagnol et le portugais.
Puisque vous avez vécu au Brésil, et beaucoup pour l'Espagne. Vous êtes un grand admirateur
L'Espagne
de l'Espagne.
Et le Portugal, bien sûr. Voilà.
Alors, la latinité, d'ailleurs, j'observe, mes chers amis auditeurs, mon cher Pierre, mon cher François, j'observe que dans l'affaire Epstein, les latins sont les latins sont beaucoup moins. En effet, vous avez tout à fait raison. Les latins sont beaucoup moins mouillés que ce que j'appelle les occidentaux. Pour moi, les occidentaux, c'est les WASP, c'est-à-dire les anglo-saxons protestants. Et c'est ça qui est en train de chavirer. Mais vous savez, il y a une grande. Entre protestants et sionistes, il y a une connivence intellectuelle. C'est pour ça que je n'ai pas tellement aimé le livre d'Éric Zemmour sur la civilisation judéo-chrétienne. Elle est protestante, elle est judéo-protestante peut-être, c'est une sacrée connivence qui prend en étau le catholicisme, qui pense exactement l'inverse.
J'aurais juste souligné qu'il ne faut pas confondre sionistes avec les juifs.
Et oui.
Il y a, ça il faut vraiment le dire si vous voulez, c'est qu'évidemment il n'y a rien de commun entre le juif de tous les jours, le juif qui est notre voisin, le juif qui a un petit, qui a un métier comme tout le monde,
bah,
et qui a une vie de famille comme tout le monde, et ces gens qui gouvernent au travers de l'argent.
Alors, je suis un peu frustré parce que ce livre est parcouru de notes et j'ai mille choses à dire à François Martin. Il nous reste 10 minutes. Mais François, pour résumer, je dirais que ce livre passe en revue, toujours au regard de ce que peut être l'intérêt de la France, passe en revue les grandes évolutions internationales de l'année dernière, notamment après l'irruption sur la scène de Trump.
Voilà.
Et par exemple, les conflits au Proche-Orient, vous les analysez avant Trump et après Trump. Les conflits le conflit en Ukraine avant Trump et après Trump.
Exactement ça.
Et si on a un mot à dire, ensuite on passera à ce qui s'appelle l'intérêt de la France dans le chaos du monde. Titre de votre livre, dont je rappelle qu'il est aussi, vous avez fait allusion, le titre d'une série que nous faisons ensemble. Enfin, je suis rien d'autre que votre complice pour la chaîne Omerta. Tous les mois, nous avons une émission qui marche très bien, d'ailleurs.
Marche bien, oui.
Et on peut se reporter, ça s'appelle « La France dans le chaos du monde »,
voilà,
qui marche de pair avec cet ouvrage. Alors, François, je ne sais pas par où commencer, puisque nous avons pris une grande partie de notre temps. L'Ukraine, par exemple. Est-ce que vraiment l'irruption sur la scène de Trump a changé la donne?
Ah ben totalement, pour moi totalement.
Vous en êtes sûr?
Oui, j'en suis absolument sûr. Alors, ce que nous voyons, si vous voulez, je vais vous dire, c'est le mûrissement de la banane, quelque part. C'est-à-dire que Trump a mis les choses dans un mûrissoir. Alors, quand vous mettez les bananes dans un mûrissoir, elle est verte au départ, et à l'intérieur, c'est de l'amidon. Et quand elle sort 6-8 jours plus tard, elle est jaune, et à l'intérieur, c'est du sucre. Avant, elle est immangeable, et après, immangeable. Mais il y a un processus. Si vous êtes au milieu du processus, vous ne pouvez pas dire qu'elle est jaune, vous ne pouvez pas dire qu'elle est verte. Elle est quelque part entre les deux et c'est ce qui se passe. Et avant, il n'y avait pas de mûrissement de la banane. Il y avait une confrontation.
Expliquez-nous l'image, François Martin.
Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les choses ne se résolvent pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de cinéma, mais tout le monde fait du cinéma, même Poutine. Parce que, en fait, le seul qui a la clé pour terminer ça, c'est Poutine. Pas par la voie diplomatique, mais par la voie militaire. Parce qu'il gagne petit à petit, il grignote, comme Franco l'a fait lors de la guerre d'Espagne.
Ah, vous faites un rapprochement avec Franco, qui a préféré grignoter petit à petit plutôt que donner toutes ses forces
pour se débarrasser de ses ennemis.
Au risque d'avoir ensuite un terrain conquis mais infesté d'adversaires.
Voilà. Il n'a pas fait de décapitation.
Des vues à très long terme, alors, finalement.
Il n'a pas fait de décapitation, il a fait une dévitalisation. Et c'est ce que Poutine fait. Donc Poutine sait très bien qu'il ne parviendra pas à obtenir quoi que ce soit par la diplomatie, parce que pour obtenir la diplomatie, il faudrait que les Américains et les Européens et les autres ne se mettent d'accord, et Zelensky se mette d'accord pour accepter ces conditions, et ils ne le feront jamais, parce que la véritable guerre, elle est culturelle et non pas militaire, et elle est entre Trump et l'Europe. Comme on l'a dit, pour les raisons qu'on a dites.
Mais Trump peut laisser l'Europe de côté, ce n'est pas la première fois que les États-Unis laisseront l'Europe de côté.
Il y a trois façons par lesquelles ça peut se terminer. Soit que Poutine, à un moment donné, dise « bon, ben, j'ai obtenu tout ce que je veux, je m'arrête ». Il décide de ne pas aller à Odessa, il dit « bon, j'ai mes oblasts, maintenant c'est fini, sans étude ».
Ça m'étonnerait qu'il laisse de côté Odessa.
On se pose encore la question. La deuxième, c'est que Zelensky dise « ben, j'ai plus d'argent ». Donc je dis à mes oligarques, c'est fini, on arrête, il n'y a plus rien à piquer. Donc on est obligé d'accepter, je ne peux pas faire autrement. Comme on vient de lui redonner 90 milliards de dollars, les Européens viennent de lui demander pour qu'il continue la guerre, à mon avis, pour embêter Trump et pour que Trump s'embourbe dans cette affaire, parce qu'on sait que c'est ça qui est le plus mauvais vis-à-vis de ces magas.
Pour les mi-termes de novembre prochain.
Les Européens ont versé 90 milliards à Zelensky pour embêter Trump. Plus que pour emmerder
Poutine. Zelensky, j'ouvre une parenthèse, il n'est plus président d'Ukraine depuis 2 ans à peu près. A été élu en mai 2019 pour 5 ans. C'est-à-dire que depuis presque 2 ans, il est illégitime. Voilà. Il est président de rien du tout.
Donc la seconde solution, c'est que Zelensky n'ait plus d'argent. Et la troisième solution, qu'à un moment donné, Trump en ait marre et qu'il se dise... plutôt que de pousser Zelensky à aller à Canossa pour pas que ça soit moi qui endosse la défaite, à un moment donné, je vais
préféré fermer les robinets. Et à ce moment-là, il arrête Starlink. Et dans les 24 heures, la guerre est finie et il peut se présenter devant ses électeurs des midterms en disant « Voyez, j'ai fait la paix ». Donc c'est
ça, c'est le troisième scénario qui m'a l'air le plus
favorable. À mon avis,
c'est
les trois scénarios. Poutine finit de remporter ce qui est, mais lui, il va à son rythme, il ne se presse pas.
Et cet été, il règle la question en faveur, au fond, de Poutine. Et il sort victorieux d'une série délicate pour les États-Unis, puisqu'ils sont embourbés en Ukraine.
Voilà, tout à fait.
Et il remporte les midterms.
Voilà, je pense que c'est ça qu'il cherche. Et voilà. Mais sinon, ces négociations que l'on voit et à Abu Dhabi et à l'autre ne servent que d'alibi. Ils servent d'alibi aux Européens parce qu'ils ne veulent surtout pas que la guerre s'arrête. Ils servent d'alibi à Zelensky parce que Zelensky veut absolument continuer, parce qu'il veut toucher ses 90 milliards, parce que s'il ne sert pas tout ce qui détourne des 90 milliards, la camarilla qui est autour de lui, il se fera assassiner ou il se fera dégommer d'une façon ou d'une autre. Et même Poutine fait du cinéma parce que comme il ne veut pas apparaître comme celui qui met Trump en culotte courte, il fait semblant de négocier histoire de lui donner une façon de s'habiller pendant le temps. Donc tout le monde gagne du temps.
Il y a un autre théâtre sur lequel vous êtes moins convaincant, mais il va falloir que vous reveniez parce qu'on a d'autres sujets à voir, notamment très important ce que vous dites sur le repli sur l'Amérique. Là, je ne vous suis pas tout à fait. Vous dites que des zones entières du continent américain font partie du territoire de sécurité des États-Unis.
Je dis que
faisons attention parce que le jour,
une logique.
Oui, le jour où on nous dira que la Guyane fait partie de la sécurité des États-Unis et mettront la main dessus, on n'en verra pas l'arme atomique.
Non, ça ne veut pas dire mettre la main dessus, mais
attention.
Je pense qu'on va vers une forme de régionalisation.
Enfin, on va reparler dans une autre émission. Il faut que vous reveniez de l'Amérique latine et puis surtout de ce que vous proposez à la fin de votre livre comme politique de la France. Mais une petite taquinerie pour finir. Et on reprendra un autre jour sur le Proche-Orient, sur la Palestine. Là, je vois, vous n'êtes pas si convaincant que ça. Je ne vois pas ce que Trump a changé.
Alors, je dirais que Trump, il a dans ses électeurs trois sortes d'électeurs. Il a une première partie qui sont les pacifistes, qui sont les petits Américains qui veulent qu'il s'occupe d'eux. Et chez les nostalgiques de l'Amérique. De la grande Amérique, il y a deux, il y a les anti-russes quelque part et il y a les pro-sionistes de l'autre. Et je dirais que ceux qu'il a le moins convaincus pour l'instant, c'est les pro-sionistes. C'est pour ça qu'il fait une politique, à mon avis, qui n'est même pas pro-sioniste véritablement, parce que si vous regardez, Netanyahou est sur la touche, alors qu'il ne l'était pas.
Donc, la touche, il est toujours, alors qu'il a failli.
Il est toujours en place, mais pour l'instant,
son
c'est
poste.
Dans cette espèce de projet qui ne tiendra pas la route, à mon avis, de conférence de la paix ou de. C'est Trump qui tire les ficelles. Dans la négociation avec c'est Trump qui tire les ficelles. Il a réussi à mettre Netanyahou sur un strapontin.
Bon, François Martin, vous reviendrez pour les autres aspects de ce livre si riche. Mais enfin, il vient de sortir. Je crois qu'il est sorti au mois de février, il y a quelques jours, ce week-end. Merci d'être venu pour commencer à nous en parler. La France dans le chaos du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, par François Martin, qui est aussi l'animateur et le producteur d'une émission sur Omerta mensuelle, à laquelle je vous renvoie. Chers auditeurs, un mot de Pierre Lours.
Un mot. Je trouve que Trump a le mérite d'avoir compris que la survie des États-Unis passe par une restauration d'une certaine morale, une certaine morale naturelle, élémentaire, une espèce de décalogue allégé, si vous voulez. Je crois, et contre justement cette camarilla internationale qui n'a plus de morale du tout.
Eh bien, puisque nous entrons en carême, entrons dans l'espérance.
Que Dieu vous entende.
Et acceptons, cette part d'optimisme.
Que Dieu nous entende.
Domine sanctam fac galliam, à mercredi prochain.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 18 février 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.